Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Et dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 9 à 14. Après que Jésus eut passé de la mort à la vie, tôt le dimanche matin, il se montra tout d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept esprits mauvais. Elle alla le raconter à ceux qui avaient été avec lui. Ils étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'elle disait « Jésus est vivant, je l'ai vu », ils ne la crurent pas. Ensuite, Jésus se montra d'une manière différente à deux disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent et le racontèrent aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils mangeaient. Il leur reprocha de manquer de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ceux qu'il avait vus vivants. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. » Je le disais en commençant ce culte, selon une tradition ancienne, les baptisés de la nuit pascale gardaient durant une semaine leurs vêtements blancs dont ils avaient été revêtus pour signifier, pour témoigner de manière visuelle de leur nouvelle naissance. Ils étaient alors comme des nouveau-nés, comme des enfants, les fameux Quasimodo, Quasimodo Geniti. Nous-mêmes avons revêtu le Christ au jour de notre baptême et notre vie chaque jour en est renouvelée. Pourtant, les Quasimodo Geniti de l'époque en avaient déjà fait l'expérience. Une semaine à peine après leur baptême, ils se trouvaient confrontés à la principale difficulté de ceux qui ont la foi, l'incrédulité de ceux qui les entourent. Une incrédulité qui pouvait les faire douter. Nous avons écouté l'histoire de Thomas, que la tradition a retenu comme, on pourrait dire, l'archétype du sceptique. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. C'est une des phrases les plus connues du Nouveau Testament, derrière laquelle il est possible de se cacher, mais Thomas n'est pas le seul. Loin de là. Marie-Madeleine, comme les deux disciples qui sont en route, se sont heurtés à la difficulté de ceux qu'ils ont croisés. À travers tous ces exemples, un des messages que nous pourrions retenir pour ce matin pourrait être le suivant. Faire le choix de la foi n'est pas choisir la facilité. On entend souvent dire qu'on fait le choix de la foi par facilité. Ce n'est pas le cas. Pas plus aujourd'hui qu'autrefois. Au début du XIXe siècle, le marquis de Laplace, un mathématicien, un astronome réputé, doit présenter son traité de mécanique céleste à Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte qui s'étonne de l'absence de Dieu dans son système de l'univers. Le scientifique aurait alors répondu cette phrase « Citoyen premier consul, Dieu est une hypothèse dont j'ai cru pouvoir me passer. La répartie est telle qu'elle se répand dans le tout Paris et devient culte, à tel point que peu avant sa mort, Laplace apprend qu'elle figurera en bonne place dans une biographie à paraître. Alors il prend les devants et demande à ce qu'elle soit expliquée. Car malgré ses découvertes, il est resté chrétien. est profondément croyant. Mais l'éditeur cédera à la facilité plutôt que de s'encombrer de subtilités à la fois théologiques et scientifiques. Cette anecdote illustre, selon moi, l'ambivalence de l'attitude qui peut être la nôtre dans le rapport que nous avons au monde qui nous entoure. Scientifique, rigoureux, Pierre-Simon Laplace ne souhaitait pas créer de confusion entre d'une part ce qu'il observait empiriquement et d'autre part ce qui fondait sa spiritualité. Peut-être d'ailleurs que les deux s'influençaient l'un l'autre, mais il souhaitait à maintenir une séparation de principes. Il tenait à la différenciation entre l'univers d'un côté et la création de l'autre, tout en admettant les deux, ce qui lui fut refusé assez violemment. À une époque où l'on a commencé à remplacer le pouvoir sacré de la religion par l'idée d'un homme qui se passe de toute référence à Dieu, la place d'une manière tout à fait anecdotique, en passant, personne aujourd'hui ne connaît plus vraiment ni son œuvre ni sa vie, la place voulait montrer que l'on peut faire la part des choses sans refuser ce besoin d'absolu qui nous dépasse. C'est le pari du baptisé aujourd'hui. Se tenir sur une ligne de crête entre d'un côté l'abîme d'une modernité qui balaye tout sur son passage et de l'autre le risque d'une foi séparée du monde qui le refuserait en quelque sorte et voudrait s'en couper. Le baptisé doit être conscient de ces deux écueils qui jonchent sa route et avancer, tenir avec l'honnêteté de refuser le cynisme ambiant qui moque celui qui s'accroche à quelque chose, tout en ne se cachant pas derrière les dogmes ou les principes. Et ce parcours n'est pas évident. C'est le parcours qui attend Tom, mais on attend un peu avant de lui dire. Pour l'instant, tout va bien. Il dessine tranquillement. Il n'est pas évident d'être baptisé aujourd'hui, pas plus qu'autrefois, entre les doutes, l'ironie et encore trop souvent, faut-il le rappeler, la persécution. Mais c'est à un parcours édifiant que nous sommes alors appelés, un parcours de vie, un programme de vie même, pourrait-on dire, tant les possibilités qui s'offrent alors sont variées. Et je vous propose ce matin trois pistes. Voilà. Pas 36, trois. Il y en a d'autres. On va se contenter de trois pour ce matin. L'acquiescement au monde. Le refus du mal. Et le partage de l'espérance. Pour le troisième, j'hésitais entre le partage de l'espérance et l'espérance du partage. Choisissez. L'acquiescement au monde. La foi protestante est d'abord et avant tout un oui plus fort que tous les non. La vocation du protestant est de faire crédit au désir de Dieu de voir ses créatures heureuses. Je répète cette phrase. La vocation du protestant est de faire crédit au désir de Dieu de voir ses créatures heureuses. Aussi refuse-t-il le protestant, de se couper de la création au prétexte de sa corruption, mais préfère-t-il s'y engager pleinement et accepter sa part de responsabilité dans le cours des événements qui l'entourent, répondre lui-même de ses actes. Sa place dans le monde lui est offerte. Il n'a rien fait pour la mériter, pour la gagner. En réponse à cette grâce, le protestant agit concrètement. Et plutôt que de citer les nombreux exemples qui illustrent cette idée dans les siècles, dans les années, dans les semaines passées, je vous laisse plutôt imaginer quelle sera votre manière, soit d'attester, soit de protester, tout en acquiesçant au monde. Ce qui nous amène au deuxième point, le refus du mal. Alors le refus du mal, ça fait un peu banal, hein, dit comme ça. Vous me direz, qui est pour le mal ? Dieu vit que cela était bon, peut-on lire au terme de chaque jour de la création. Vayada Elohim Kitov. Dieu vit que cela était bon. C'est pour la bonté et la beauté que Dieu intervient dans le monde, que Dieu intervient dans nos vies, avec un projet bénéfique, un projet d'alliance pour toute l'humanité. Et dès les premiers temps du christianisme, dès les premiers temps de l'Église, la question du combat de l'injustice a été prise au sérieux. L'action du baptisé n'est donc pas un activisme, elle a une visée. Le rétablissement de la dignité humaine partout où cette dignité est fragilisée. Chez les plus démunis, chez les sans-papiers, les prisonniers, les malades. Chacun est convoqué à la mesure de sa capacité. Et énoncer le refus du mal, ne serait-ce que le dire, est déjà un combat engagé. Là aussi, donc, vous le voyez, pas de place pour le cynisme ou pour l'ironie qui dirait « vous pouvez toujours courir ». Non, je crois à la force performatrice du refus du mal. À partir du moment où on pose des mots, la bataille a déjà commencé. Et enfin, le partage de l'espérance. Le fait qu'il n'est pas bon d'être seul est la première expérience vécue dans la Bible. Vous connaissez cette histoire d'Adam qui s'ennuie un peu, au fond. Cette idée a, je pense, été développée dans notre tradition par le besoin de partager. Et c'est vrai que nous partageons beaucoup. Ici, concrètement, nous partageons les marches, les repas, les chants, les cultes. Le partage de la parole, le partage du pain tout à l'heure, ne sont pas symboliques. Ce ne sont pas simplement des signes. Ce sont des réalités concrètes qui sont l'expression d'une volonté commune exprimée par l'ensemble de l'Église de créer du lien, de nous relier les uns aux autres, de créer un tissu solidaire qui soit capable de propager une bonne nouvelle. Dieu se rend proche de nous et suscite notre soif d'altérité. L'acquiescement au monde, le refus du mal et le partage de l'espérance concret. Ces trois idées viennent chaque jour mettre du sens dans la vie des baptisés que nous sommes. Notre baptême est un signe visible que notre foi n'est pas éthérée, qu'elle n'est pas simplement une construction idéologique, théologique, intellectuelle, mais qu'elle est bien ce lien solide qui nous relie à Dieu, un Dieu qui nous appelle par notre nom. Aujourd'hui, Tom, et chacun d'entre vous. Un Dieu qui nous appelle car il nous connaît et il a un projet pour nous. Un projet en trois pistes, ou en beaucoup plus, c'est à vous de continuer. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole qui parle de Dieu, du monde et de vous.